Chapitre 6. Que la vraie distinction à établir est celle de la religion individuelle ou privée et du culte public ou national. Le socialisme absolu, que plusieurs penseurs de nos jours essaient de remettre en honneur et qu'ils opposent à la liberté absolue, n'est pas moins abominable ni moins absurde que l'individualisme, dont nous venons de voir les déplorables effets. Et l'on oublie que c'est parce que l'humanité était lasse de ce socialisme qu'elle s'est précipitée dans la liberté absolue, tombant, comme on dit, d'un écueil dans un autre, de Charybde en Scylla. De ce qu'une société ne peut pas subsister sans religion, on en avait conclu que la religion n'est pas le fait de l'individu, mais de l'État, tandis que, comme nous allons le démontrer, il y a la religion de l'individu et la religion de l'État. De là le despotisme des diverses religions qui ont passé sur la terre, de là en particulier le despotisme de l'Église. Mais grâce à Dieu, c'en est fait à jamais de ce prétendu droit absolu de la société sur la conscience de ses membres. Le despotisme social, à force de tuer et de persécuter, s'est tué lui-même. Il fit boire la ciguë à Socrate et mit Jésus-Christ sur la croix. Il a brûlé Jan Hus et Jérôme de Prague. Il a persécuté tous les sages, tous les hommes qui portaient l'amour de la vérité et l'amour des hommes dans leur cœur. Qu'ils soient maudits et rejetés pour toujours. Oui, s'il n'était possible d'avoir une religion et une société qu'à la condition de voir reparaître le despotisme social, plutôt point de religion, plutôt point de société. Ainsi conçu, en effet, c'est-à-dire conçu comme niant et détruisant le droit qu'a chaque individu de croire ou de ne pas croire et de penser à sa guise, une religion serait, au point où nous sommes arrivés maintenant, la plus atroce des iniquités. La plus atroce des iniquités. Sommes-nous des individualités, des êtres distincts, des intelligences séparées? Ou bien n'avons-nous qu'un seul et même cerveau pour penser? Ou bien encore y a-t-il parmi nous des mineurs déshérités, officiellement du droit de penser, capitis minores, et devons-nous en conséquence nous reconstituer en caste? Si chacun de nous est une intelligence distincte, tout est dit. La question est décidée. Le premier principe de la société des intelligences sera apparemment la reconnaissance de chaque intelligence, ou en d'autres termes, la liberté de chaque intelligence. Mais nous allons, dites-vous, organiser, au profit de tous, un cerveau collectif. Ce sera un pape, un consul, un synode. Qu'avez-vous à faire de penser si la société pense pour vous par le moyen de ces hommes d'élite? J'ai à faire de vivre, et vivre c'est penser. Je ne penserai pas si l'on pense souverainement pour moi. J'admets l'aide de mes semblables, leur corporation, mais je n'admets pas leur tyrannie. Vous voulez que je me soumette aveuglément à une pensée qui n'est pas née ou qui n'est pas descendue dans ma conscience. Vous niez en moi l'être pensant et vous m'annihilez comme intelligence. Nous avons vu plus haut que si l'humanité a repoussé le régime des castes, c'est parce que ce régime ne constituait au complet que l'État, mais non pas l'individu, ne résolvant ce problème d'une société complète par l'incomplet de chacun des membres de cette société. Voilà le crime des castes, leur crime radical est irrémissible. Ce n'est pas seulement parce que la distribution des divers rôles de prêtres, de guerriers, d'industriels, suivait en Orient le sort de la naissance, que les castes ont été rejetées. Non, car ce n'était là qu'un moyen simple et indiqué par la nature pour arriver au but des castes. Mais elles ont été rejetées parce qu'elles tronquaient, mutilaient et finalement annihilaient l'homme, l'individu. Dans la restauration provisoire, qui s'est faite au Moyen-Âge, de ce régime des castes, bien que la naissance n'ait pas été prise absolument pour base de cette organisation, le caractère des castes n'en fut pas pour cela moins marqué. Aux uns le sacerdoce, aux autres la guerre et le gouvernement militaire, à d'autres l'industrie et le servage. Aujourd'hui, grâce à la Réforme, grâce à la philosophie et à la Révolution française, nous sommes tous égaux, c'est-à-dire nous sommes tous considérés comme autant d'activités et d'intelligences libres, ayant droit à tout, à la religion comme à la politique. En un mot, nous sommes tous prêtres, nous sommes une nation de prêtres, au même titre que nous sommes tous citoyens. Qui donc peut songer à renverser ce résultat qui a été véritablement le but secret de l'humanité depuis tant de siècles? C'est profonde ignorance que de ne pas comprendre cette tendance de l'humanité à constituer l'homme complet au sein de la société, et si on la comprend, ce serait folie que de s'y opposer. Comme je l'ai dit ailleurs, tout le mouvement révolutionnaire de l'Europe, depuis le XIIe siècle, a eu pour cause et pour but l'émancipation de la société laïque aspirant au sacerdoce, et se résume symboliquement ainsi, nous avons, avec Wycliffe et Jan Hus, demandé hardiment aux prêtres le privilège de la coupe, et nous l'avons pris de force avec Luther. Nous sommes donc prêtres, nous le sommes tous. Nous sommes tous investis du caractère sacerdotal, comme l'étaient indistinctement tous les membres de la caste sacerdotale dans les divers pays où le régime des castes a existé. Voilà le plus grand des résultats de l'histoire depuis 50 ou 60 siècles. Mais comme des esclaves émancipés d'hier, nous ne savons encore quel usage faire de notre liberté. Il nous a fallu briser le lien commun des individus, c'est-à-dire à la fois l'État et l'Église, pour affranchir l'individu. Il en résulte une situation temporaire où l'individu, affranchi nominalement, ne l'est pas de fait, et où la société, c'est-à-dire l'État et l'Église, n'existent plus. Laïque, nous avons osé aspirer au droit du sacerdoce, et nous n'osons maintenant nous investir complètement de ce caractère. Voilà pour chacun pris isolément, et quant à la société, c'est la même chose. Elle a trop osé, ou n'ose plus assez. Dans son combat contre la caste prêtre, la société laïque n'a pas compris que tôt ou tard, il lui faudrait devenir elle-même société complète, c'est-à-dire société à la fois religieuse et politique. Elle a renversé l'Église et détrôné le pape. Qu'elle soit donc elle-même et son Église et son pape, car encore une fois, une société ne peut subsister sans principe et sans gouvernement religieux. Conserver mais réaliser véritablement ce droit de chacun à la religion comme à la politique, et d'un autre côté, organiser le droit de la société collective à la religion comme à la politique. En un mot, réunir les deux perfections que les diverses sociétés ont présentées séparément jusqu'ici, c'est-à-dire un État complet et un citoyen également complet. Voilà le problème que nous a légué l'humanité antérieure. Et remarquez que ces deux termes du problème sont des conditions absolues, nécessaires, contre lesquelles rien ne prévaudra. La semence du passé doit croître et ne peut pas mourir. Nous voudrions rentrer dans la situation des générations qui nous ont précédés, que nous ne le pourrions pas. Vainement, nous redemanderions au ciel une caste prêtre pour nous gouverner religieusement, le ciel ne nous la donnerait pas. Vainement aussi, nous voudrions rester des intelligences séparées, sans lien collectif, sans société complète, nous ne le pourrions pas davantage. Poussés par le passé, l'avenir nous appelle. Il faut à la fois à l'avenir et société complète et individu complet. J'ai beau prendre l'histoire par tous les bouts, en suivre toutes les avenues, j'arrive toujours à ces deux formules que j'ai déjà exprimées ailleurs et qui se présentent à mes regards comme si elles étaient écrites bien haut sur des colonnes de bronze. La société de l'avenir sera à la fois pape et empereur. Dans la société de l'avenir, chaque homme sera à la fois son pape et son empereur. Et quand je laisse l'histoire pour rentrer en moi-même, je retrouve également ces deux tendances, ou plutôt ces deux lois gravées dans mon cœur. Car premièrement, je me sens lié aux autres hommes, et je répète ce beau vers, ou plutôt cet oracle, échappé à l'Antiquité, « Homo sum, humani nihil, ame alienum puto ». Je sens donc que je ne puis vivre sans la société, et en réfléchissant qu'une société ne peut subsister sans religion, car elle n'aurait pas de lien et n'aurait pas non plus de fondement, je me sens convaincu et doucement attiré vers une religion collective où je puisse communier avec mes semblables. Mais en même temps, je sens que je suis pensé, et que la loi même, ou la nature de la pensée, est d'être libre, et que qui dit liberté dit indépendance. Je me sens donc libre et indépendant. Je le suis, je veux l'être, comme dit le grand Corneille, et pour rien au monde je ne veux m'abdiquer. Immense contradiction en apparence, nœud gordien qui arrête aujourd'hui l'esprit humain et qui entrave sa marche et ses progrès. Mais remarquez que ce n'est pas seulement sur le sujet qui nous occupe ici, c'est-à-dire sur la religion, que cette double tendance existe aujourd'hui. C'est sur toutes les questions de la science sociale. Vous ne trouverez pas un point de politique où la lutte de ces deux besoins, en apparence contradictoires, ne se fasse violemment sentir. Prenez une question aussi éloignée de la religion que vous le voudrez. Vous rencontrerez cette terrible dualité de l'individu et de la société. De l'individu qui veut être libre, indépendant, complet, et de la société qui a besoin aussi d'être libre, indépendante, complète, pour être une société et non pas une simple agrégation d'hommes. Il y a plus. Chacun de nous sent instinctivement que si la société n'est pas complète et omnipotente, ce prétendu droit de l'individu à la liberté et à l'omnipotence n'est qu'un mot et une chimère. Voilà ce qui fait aujourd'hui le désespoir de tous les penseurs qui s'occupent consciencieusement de la science politique. Voilà aussi ce qui explique tant de variations subites d'esprit supérieur que l'on a vu passer tour à tour de l'individualisme au socialisme, cherchant successivement une issue dans ces deux systèmes et ne la trouvant pas. Vous voulez, par exemple, en fait de gouvernement politique, la réalisation de ces deux mots que la Révolution a proclamés, liberté, égalité. Qu'est-ce à dire ? Égalité entraîne un gouvernement républicain unitaire, une association souveraine sur ses membres. Vous êtes amené, avec Rousseau, à penser. Le souverain peut tout. Il est omnipotent. Chaque citoyen lui a remis ses pouvoirs. Chacun a fait en sa faveur abdication de son droit. Qu'il règne absolu, qu'il gouverne, qu'il administre la République. Il est nous. Il est chacun de nous, transformé et devenu souverain en lui. Voilà où vous conduit le sentiment de l'égalité. Mais quoi ? La société va donc gouverner souverainement l'individu. Elle va donc régler ses actions, commander même à ses pensées. Il se devra tout à elle, il ne sera plus qu'un membre de la volonté souveraine. Vous voilà révolté, même avant d'avoir réfléchi qu'il y aura toujours, dans tout gouvernement républicain, une majorité et une minorité, et que, par conséquent, la loi ne sera jamais que l'expression de la majorité et un fait de domination de cette majorité sur la minorité. Je dis qu'indépendamment de cette nécessité, d'une minorité non consentante, vous comprenez que l'homme ne peut remettre aux mains de l'État ni sa pensée, ni son amour, ni ses amitiés, ni la direction de son travail, ni le fruit de ce travail, en un mot, une multitude d'actes qui constituent sa personnalité. Vous êtes révolté, dis-je, des conséquences de ce gouvernement unitaire, et vous opposez à l'égalité, la liberté. Puis, de liberté en liberté, liberté de penser, d'écrire et d'imprimer, liberté de conscience et liberté des sectes, liberté du travail et de l'emploi des capitaux, liberté des pères de famille sur leurs enfants, et liberté d'éducation, etc., etc., vous restreignez le souverain collectif au point de le nier et de l'anéantir. L'humanité est-elle donc enfermée dans une impasse, où elle se fatiguera vainement sans pouvoir s'ouvrir d'issue ? Il y a déjà quelques années que, réfléchissant à ces questions, il nous a semblé apercevoir, non pas la solution même de ce redoutable problème, car cette solution, ce serait tout un nouvel ordre social, mais du moins un principe qui peut servir à guider notre raison au milieu de ces difficultés. Ce principe, que volontiers j'oserais appeler le principe fondamental de la République, res publica, c'est la distinction, fondée sur l'évidence et le consentement, des choses qui sont du domaine de l'individu et des choses qui sont du domaine de la société collective. Cette distinction, l'esprit humain n'est pas encore parvenu à la faire. Au lieu donc de séparer, comme deux royaumes différents, le domaine de l'individualité et le domaine du collectisme, on s'est toujours fatigué vainement à concilier sur le même terrain deux principes contradictoires et qui, devant tous deux être souverains, ne peuvent admettre de rivalité. Je vais tâcher d'expliquer mon idée en peu de mots.